Autre radio, autre culture, bonjour. Tout d'abord, une excellente année à vous tous et particulièrement à nos amis de Martinique, Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon qui nous écoutent toujours avec ferveur et je les en remercie. Alors pour cette nouvelle année, tout d'abord, je vous annonce, nous avions reçu Bielka qui est une chanteuse et elle a un concert, plusieurs concerts au Théâtre de la Girandole les mercredis 12, 19 et 26 janvier 2011. À 20h30 au théâtre donc de la Girandole, 4 rue Édouard Vaillant à Montreuil. Son spectacle s'appelle La Belle et le Tailleur et c'est de son châtelet, au village juif au faubourg parisien, les tribulations en chanson d'un petit tailleur contraint de quitter sa Russie natale. Donc je vous rappelle, Bielka en concert le 12, 19, 26 janvier à 20h30 au théâtre de la Girandole à Montreuil près de Paris. Aujourd'hui, nous recevons Alain Bernard.
Bonjour.
Bonjour Alain. Moi, j'adore recevoir Alain parce que c'est toujours un optimisme débordant.
une apparence.
une gentillesse vraiment géniale. Et puis, c'est quand même le goût du Périgord. C'est le son du Périgord, l'écriture du Périgord, puisque Alain Bernard est journaliste à Sud-Ouest.
Voilà. Un journaliste déjà âgé, aux cheveux blancs, mais toujours enthousiaste et qui a plaisir, je vous renvoie l'ascenseur, à venir voir ses amis là-haut.
Alain vient nous voir tout simplement parce qu'il vient d'écrire avec José Santos Ducerre un livre sur le pâté de Périgueux et sa complice La Truffe aux éditions Arca.
Voilà. Vous savez tout. Alors, un livre culinaire de plus, peut-être. Un jour, on m'avait demandé pourquoi. J'ai dit que tous les 2 ans, nous avons à Périgueux le Salon international du livre gourmand. C'est l'occasion de sortir des livres culinaires, de rencontrer des éditeurs intéressés par la cuisine. Donc voilà, alors c'est la suite après la cuisine préhistorique, après la cuisine du Périgord, après d'autres ouvrages toujours un petit peu axés sur le patrimoine culinaire. Mais cette fois-ci, c'est plutôt un ouvrage spécifique, puisque le pâté de Périgueux, que je sache, n'a guère d'équivalent dans l'Hexagone. Je ne sache pas qu'il existe un pâté de Rouen ou un pâté de Clermont-Ferrand ou un pâté de Mont-de-Marsan. En fait, le pâté de Périgueux est un petit joyau historique, peut-être mal connu ou en tout cas un peu oublié.
Alors qu'est-ce que c'est le pâté de Périgueux ?
Alors le pâté de Périgueux, c'est un pâté, comme dirait l'autre, qui répond à certains critères, des pourcentages de graisse, de foie, etc., de chair, et qui est tous les ans, le dernier samedi de août, à l'honneur, avec un concours annuel du pâté de Périgueux qui se passe sur la place principale de notre charmante ville, au milieu des confréries en grand apparat, et qui vise à perpétuer ce pâté avec chaque année une dizaine, disons, de concurrents amateurs et une dizaine de concurrents professionnels, des conserviers, et qui sont chaque fois attachés à produire soit du pâté à base de d'oie ou à pâté de canard. Et en fait, le pâté de Périgueux trouve son origine il y a peut-être 600 ou 700 ans, ou un petit peu moins, lorsque les pâtissiers, c'est-à-dire non pas les boulangers-pâtissiers, mais les pâtissiers, ceux qui faisaient des pâtés, étaient des gens qui confectionnaient charcuteries assez bizarres, puisque on retrouvait dans des boyaux aussi bien du poisson que du porc, que des tas d'objets venant du cochon ou de la vache, etc. Et tout ça était finalement emmailloté dans des boyaux et servi sous forme de pâté de Périgueux aux gens de Périgueux, mais aussi bien au-delà, puisque au fur et à mesure des années, ce pâté de Périgueux s'est amélioré, s'est enrichi, s'est bonifié, au point de devenir, alors au XVIIe et XVIIIe siècle, un objet d'exportation, puisqu'il servait aux ambassades à régaler des suzerains et des chefs d'État étrangers loin à la ronde.
Alors, je n'ai pas bien compris, c'est un pâté qui pouvait y avoir plusieurs viandes dedans ?
Alors c'est, au début, c'était l'origine de ce pâté, c'était une origine très composite. Il y avait à la fois de la viande proprement dite, mais aussi du poisson, des abats. Il y avait des morceaux des victuailles variées, parfois avariées d'ailleurs aussi. Et c'était un élément de nourriture finalement plutôt populaire, bas de gamme. Et petit à petit, on a amélioré ce produit pour en faire un aliment haut de gamme. Parce que l'ambivalence de ce pâté de Périgueux est la suivante. Dans le pâté de Périgueux, il y a à la fois un volet très populaire. C'est devenu le pâté de la ménagère, de l'agricultrice, qui était heureuse de donner à manger du pâté de Périgueux aux visiteurs, aux amis, etc. Et puis, c'est devenu aussi un aliment extrêmement goûté, avec un volet finalement de très haut niveau qui était le pâté en croûte de Périgueux, avec le même pâté emballé, magnifié par de la pâtisserie au sens propre du terme.
Est-ce que le pâté en croûte se mangeait chaud ?
Alors absolument, on a refait dans les 10 dernières années, stages avec la chambre de métier de Dordogne pour retrouver justement le façonnage de ce pâté en croûte. Et c'était un pâté d'extrêmement bonne qualité, fait par des professionnels qui étaient... ce produit était chaud, effectivement. On en a eu des dégustations lors des salons du livre gourmand des années 92 et 94.
Ce travail de pâté en croûte, est-ce qu'il y a une grosse différence avec ce qu'on appelle les tourtes ? Les tourtes à viande ou les tourtes à poisson ou les tourtes que l'on mange à base d'abats que l'on voit en Angleterre ou aussi en France, un peu partout ?
Je suis sûr même qu'au départ, dans la notion de pâté telle qu'elle prévalait à la fin du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, c'était souvent quelque chose comparable à la tourte, parce que on mettait finalement dans ces pâtés énormément de choses qui correspondaient finalement un peu aux bas morceaux de l'époque, et on essayait de les diffuser autant que possible sur la ville, mais aussi on retrouve par exemple des traces de pâté dans des villes aux alentours de Périgueux, et les pâtissiers étaient devenus des gens très prospères. Par exemple, à Périgueux, on a le plus beau bâtiment historique, le plus beau monument historique, qui est la maison du pâtissier, qui est du XIVe siècle, et qui dénotait une richesse évidente. Le pâtissier étant à l'époque quelqu'un de très très bien en cours, de très 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 riche et très puissant. On a eu surtout le sommet de cette fonction de pâtissier avec quelqu'un qui s'appelait Courtois et qui, à la charnière du XVIe et du XVIIe siècle, a eu une pignon sur rue, enfin si on peut dire, puisque son four était en sous-sol, dans une rue qui s'appelle la rue Limogène, qui est l'ancienne rue la plus historique de Périgueux. Et ce Courtois avait lui-même des tas de sous-traitants, si on peut dire, un peu partout dans la ville et alentour, et il était devenu vraiment un magnat du pâté.
Est-ce que ce côté tourte, on le connaît au niveau archéologique, enfin archéologique entre guillemets, parce que le Périgord a été une ancienne province anglaise, les Anglais ont été une ancienne province normande. Est-ce que, parce qu'on sait que les Anglais font des tourtes à la base de rognon, à base d'abats, à base d'anguilles également, est-ce qu'il y a une similitude de recettes entre le pays anglais et ce qui s'est passé en Périgord ?
Je pense que oui. On a eu des fouilles, comme par exemple au château Madame Palluet, au château de Lerme, à côté de Montignac. Elle a fouillé donc avec des équipes dans les soubassements du château. On a retrouvé des tas de restes pétrifiés, en quelque sorte, de restes de repas, mais aussi des restes de ce qu'on imagine, et qui prouveraient que justement ces aliments composites sites ont été tout à fait fréquents. Donc là, ça remonte, ça fait 13e, 14e siècle. Et semble-t-il, évident qu'on a justement un cousinage entre ces nourritures de la France du Moyen-Âge, du bas Moyen-Âge profond et celle de la présence anglaise.
Est-ce qu'il y a une évolution entre le pâté de Périgueux ou le pâté en croûte? Est-ce qu'il y a une évolution dans la manière de cuisiner dans le temps?
Oui, je crois que effectivement, il y a deux évolutions parallèles. Le pâté populaire, donc, qui était celui des femmes du peuple ou de la campagne, enfin, qui était justement attaché à un pâté assez ordinaire. Cette évolution a été continue. On est arrivé avec la codification du pâté en termes de pourcentage d'ingrédients qui est à l'heure actuelle déposé auprès de l'Institut de la propriété industrielle. Cette évolution donc a été parallèle à celle des pâtés en croûte qui, eux, ont été de meilleur en meilleur et qui ont abouti justement à ce qu'on a aujourd'hui. Il faut le dire, avec assez peu de diffusion, mais ça, ce n'est pas forcément une fatalité, on a quelques traiteurs qui, à Périgueux, ont su restituer ces pâtés en croûte, et notamment dans le quartier de l'Hôtel de Ville, il y a deux ou trois traiteurs qui sont capables de vendre de ces tourtes, mais il est certain que le but, lorsqu'il y a eu les stages dont je parlais tout à l'heure, par la chambre de métier, le but était d'arriver à remotiver les traiteurs ainsi que les pâtissiers actuels de Périgueux et du Périgord à cette production de pâtés en croûte.
L'introduction du foie gras est-elle obligatoire dans le pâté de Périgueux?
Alors, c'est une question majeure, ça, parce que dans la codification de la fabrication du pâté de Périgueux, il est précisé qu'on demande un minimum, je crois, de 2 ou 3 % de foie gras. Mais il est évident que ce n'est pas un aspect majeur de ce pâté. Au contraire de ce qui s'est passé pour... il y a un pâté en croûte à Strasbourg avec le seigneur de Contade, enfin, qui a justement envoyé des pâtés jusqu'en Russie chez les tsars, et lui il avait un pourcentage de foie gras bien plus grand. À Tellancen, c'était le foie gras qui devenait la partie majeure, la partie principale de ce mets. Et j'avais lors d'un précédent livre qui s'appelait Les truffes du tsar et truffes impériales, j'avais justement raconté comment cet extraordinaire commerce qui s'était créé entre Strasbourg et la Russie avait permis de vendre du foie gras du Périgord, à telle enseigne que lorsque l'Alsace a été rattachée à l'Allemagne en 1871, il a fallu pour les Russes importer plutôt du foie gras de Hongrie parce que les Strasbourgeois fournissaient plutôt le Reich allemand.
Alors dans ce livre, vous donnez plusieurs recettes de pâté. Ces recettes viennent d'où?
Alors là, c'est plutôt mon compère et ami José Santos Dusserre qui a été qui les a mis en valeur. Mais nous avions, non pas une vie précédente, mais dans un ouvrage précédent qui s'appelait Le Périgord d'antan, nous avions rassemblé un certain nombre de recettes, justement, du 19e siècle, du début du 20e siècle. Et on s'était aperçu que... Bon, outre la truffe, le foie gras et autres produits emblématiques du Périgord, le pâté figurait en bonne place dans les menus, si on peut dire, ou dans l'organisation des repas, à la fois chez les particuliers, chez les agriculteurs, chez les gens des villes, ainsi que dans les auberges. Et le pâté de Périgueux, loin d'être... une espèce de luxe comme il est, ou de luxe en tout cas de produit, je n'ose pas dire mineur, mais enfin, oui, un produit finalement sans une importance vitale comme il est devenu aujourd'hui, était à l'époque finalement très important et d'un enjeu majeur.
Alors vous avez un autre compère qui a participé au livre, c'est monsieur Jean-Michel Linfort pour les pastels. Comment est venue cette collaboration?
Alors Jean-Michel Linfort est un garçon assez extraordinaire, bien sûr, qui est un sous-préfet à la retraite depuis peu de temps et qui a passé sa vie, une grande partie de sa vie en tout cas, à dépeindre le monde rural, disons, finissant. Il est lui-même enfant d'agriculteur d'une petite ferme des environs de Périgueux. Il a vécu avec nostalgie le crépuscule de la condition paysanne petite du Périgord, le petit paysanal. Et il a notamment monté des expositions sur les matériels agricoles abandonnés, sur les paysages de fermes oubliées. Et il avait même obtenu du ministère de l'Intérieur de pouvoir exposer dans les sous-préfectures où il se trouvait en poste, dont la dernière, je crois, était Castel-Sarrasin, en Tarn-et-Garonne. Et c'est un garçon qui a été justement très marqué par ce monde rural, donc à son ultime vie, mais qui est aussi passionné par le Tour de France, puisqu'il a écrit des bouquins sur le cyclisme au sommet, dans les Pyrénées. Il a aussi été passionné par les beaux-arts dans le Midi de la France. Il a notamment fait toute une histoire de la peinture en Périgord. Voilà.
Alors pour en revenir au livre, existe-t-il actuellement des dynasties du pâté, de confectionneurs de pâté?
Des dynasties, peut-être pas, mais il y a à l'heure actuelle plusieurs dizaines d'artisans qui confectionnent du pâté, et à côté d'autres conserves. Certains s'appellent les conserviers. Les conserviers, c'est les conserveurs plus quelque chose de plus, on va dire, c'est des gens qui ont label. Et ces gens essayent de d'essaimer, c'est toujours l'éternelle difficulté de sortir des frontières du département, mais ils vendent pas mal sur les marchés, et puis surtout, ils ont le sentiment qu'on peut aussi vendre pas mal aux touristes. Le Dordogne est un produit touristique important. Nous avons par exemple pris comme cas ici dans ce livre la famille Chartroul qui très près de Périgueux a monté tout un laboratoire de traitement de l'oie. Ils ont 500 oies, et puis ils ont monté aussi tout un ensemble de gîtes ruraux, de locations à la ferme, etc. Et tous les clients de ce tourisme donc profitent du laboratoire, profitent de l'oie et de ses conserves, et finalement sont autant d'ambassadeurs de ce pâté de Périgueux. Finalement, le pâté de Périgueux a encore quelques beaux représentants, quelques beaux défenseurs.
Alors j'étais étonnée en regardant votre livre, vous avez une photo de Jean-Louis Chartroul justement et de son oie Milac de Broche. Donc il y a quand même une sympathie qui existe avec certaines oies.
Alors bon, effectivement, comme tout le monde, je pensais que l'oie était un animal assez froid et assez impavide. En réalité, je me suis aperçu, notamment quand j'ai fait des photos de troupeaux d'oies, que les oies n'étaient, comme on pourrait dire, pas si bêtes, puisqu'elles sont capables d'écouter un petit peu quand on les appelle, elles sont capables de ne pas seulement marcher au pas de l'oie, mais aussi de danser un petit peu. Enfin, j'ai découvert finalement des oies qui ne sont pas si idiotes.
Ah, moi, j'ai connu une fille qui avait un jar et il y avait une histoire d'amour extraordinaire entre le jar et cette jeune femme. Et le jar ne pouvait pas vivre sans elle.
C'est beau.
C'est beau, hein? Bien, ce livre se trouve dans toutes les bonnes librairies.
J'aimerais bien. Enfin, on est dans une édition régionale qui, comme toutes les maisons d'édition, et surtout les maisons régionales, a pas du mal à vivre, enfin, qui essaye de se débrouiller. Alors, finalement, on le trouve surtout en Dordogne. Si par hasard vous voulez l'acquérir, je me ferai un plaisir de répondre au 06 03 56 37 88, 06 03 56 37 88, et ce sera un bonheur de vous le dédicacer.
Il y en a qui vont être contents. Très bien, en tout cas c'est un très beau livre qui est un bon cadeau pour les étrennes en ce moment. Il y a des très belles photos, des très beaux dessins, puis les recettes, ça donne quand même l'eau à la bouche. Alors, nous avions rencontré des confréries du pâté lors de tournages de films. On a vu des gens hauts en couleur, assez extraordinaires, et qui sont partie prenante donc, pour ce type de recettes, de conservation de recettes, ou alors pour une évolution de ces recettes.
Oui, alors les confréries ont un rôle à jouer. Alors, elles sont souvent constituées pour leurs membres de personnes assez assises à un certain âge. Bon, on dit oui, les confréries, c'est du folklore. Bon, moi je dis les confréries, c'est un bon moyen de promotion. Ce sont de bons ambassadeurs aussi d'animaux, de produits à faire connaître. Et dans ce cas, justement, le Doctocollège du foie gras et de la truffe est à Thiviers une excellente ambassade, de même que la confrérie du pâté de Périgueux.
Très bien. Quel est le prochain projet, Alain ?
Mais sur vous, bien sûr.
Très bien, bah merci beaucoup Alain d'être venu. Donc je vous rappelle, le pâté de Périgueux et sa complice La Truffe avec José Santos Ducerre et Alain Bernard dans les éditions Arca. Voilà, je vous remercie beaucoup Alain d'être venu.
Quoi, quoi.
Autre radio, autre culture, au revoir. Autre radio, autre culture.